Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 18 septembre 2025, deuxième émission de la rentrée automne 2025 de l'UQAM. Mathieu au microphone, en compagnie de Marie-Ève.
Salut Mathieu, salut tout le monde.
Salut, et de Simon.
Salut, on est bien à l'UQAM.
À l'UQAM, mesdames et messieurs. Donc, en direct des studios de choc.ca. Émission, évidemment, aux deux semaines, qui parle d'enjeux de racisme, de colonialisme, d'abus policiers, d'abus des droits humains, de frontières, d'immigration, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, entre autres, on va avoir les actualités autochtones avec Marie-Ève. Elle va avoir aussi les actualités allemandes.
Oui, hein? Oui, parce que ça...
Il se passe pas mal de choses,
oui,
hein?
Oui, oui, oui.
Simon, de son côté, va nous parler des actualités britanniques.
Bien sûr.
Et aussi des routes migratoires maritimes dans le monde, ou surtout au niveau...
La route des Canaries et beaucoup avec le gouvernement mauritanien.
Ah, intéressant, merci. Donc, dans l'Atlantique en particulier.
Exactement.
Hein? Exactement. Moi, je vais vous parler, entre autres, de la Colombie. Je vais vous parler aussi des fonds pour la justice en lien avec le racisme systémique. Je vais vous parler des émeutes et des bouleversements politiques au Népal et en Indonésie. Et dans quelques secondes, je vais commencer avec la police suisse, la police chuiche. Donc, mais vous dire que... nous sommes diffusés donc sur notre page Internet, sur le site de Choc et notre propre page apatridesanonymes.info pour les émissions que vous voulez écouter, l'ensemble des émissions, et que nous avons un courriel apatridesanonymes@resist.ca et que nous sommes en direct pour 70 minutes avec vous pour notre plus grand plaisir. Il y aura aussi, évidemment, de la musique, trois pièces musicales à découvrir dans les prochaines minutes.
Surprise!
Surprise, des nouveautés, des choses, des créations récentes, oui, voilà. Je commence avec, on parle pas souvent de la Suisse, mais là, ça brasse dans une ville qui s'appelle Lausanne. Une enquête révèle des messages racistes échangés entre les policiers de Lausanne. Cette information tombe au moment où la ville est secouée par des émeutes après la mort d'un jeune homme dans une course-poursuite avec la police. Quatre policiers lausannois ont été suspendus avec effet immédiat en lien avec les messages racistes. Nous sommes profondément heurtés et choqués face à ce qu'il faut nommer comme du racisme systémique ainsi qu'un grand nombre d'autres discriminations au sein du corps de police, a déclaré le maire de Lausanne. L'enquête du ministère public a décortiqué 10 000 pages de conversations WhatsApp et 6 000 photos et vidéos issues de deux groupes sur lesquels sont échangés depuis 2016 des messages à caractère raciste, antisémite, islamophobe et sexiste. Seuls des membres de la police lausannoise étaient membres de ces deux groupes et environ 10% de l'effectif a vu et lu ces messages sans en avertir la hiérarchie. Cette affaire tombe d'autant plus mal que la police est pointée du doigt par une partie des habitants de Lausanne. Un jeune homme de 17 ans, Marvin, est mort récemment lors d'une course-poursuite avec la police. Oui, exactement. Le quartier du Prélaz a connu deux nuits d'émeutes par la suite. Le jeune homme décédé était d'origine congolaise et ses amis accusent la police d'avoir provoqué sa chute mortelle. Il s'agit du deuxième accident mortel de ce type en moins de deux mois dans la ville suisse. La police a été au centre des débats brûlants lors de la rentrée du conseil communal de Lausanne la semaine passée. Deux élus de gauche se sont notamment accusés mutuellement de n'avoir pas agi en 2019 lorsqu'ils siégeaient ensemble à la commission de gestion. Une lanceuse d'alerte avait alors dénoncé des comportements discriminatoires au sein de l'académie de police de Savatan. Elle avait présenté 16 témoignages et deux photos compromettantes attestant des dérives. La commission s'était contentée d'un simple courriel à la municipalité et ça n'avait pas eu de suite. Donc, pour venir à la rentrée du conseil communal, l'Assemblée a accepté un texte qui demande la mise en place d'un moratoire sur les pratiques policières controversées. Je cite une représentante du Parti socialiste. Il fallait trouver une autre façon de questionner les pratiques et les techniques utilisées par la police lausannoise qui ont mené au décès de Marvin, de Camilla, mais aussi ceux de Mike, Ben, Peter et Michael, si on parle aussi du plaquage ventral. Donc, voilà ce qui se passe du côté de Lausanne, à suivre peut-être dans les prochaines semaines. Donc, je pense que Marie-Ève est prête, hein, pour aller dans le pays juste à côté.
Oui, en Allemagne, comme tu l'as si bien dit en introduction, c'est que au début du mois, il y a le site d'actualité Info Migrant qui a publié une série d'articles qui fait un peu là, le bilan de la politique allemande en matière d'immigration depuis 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que selon plusieurs, l'année 2015 a marqué un tournant dans la politique migratoire de l'Allemagne en raison de l'arrivée massive de réfugiés. On sait que ça a été le cas dans toute l'Europe, mais particulièrement en Allemagne. Un de ces articles-là propose une chronologie des moments forts de cette année-là. Il s'intitule « L'été 2015, un tournant dans la politique migratoire allemande ». Je vous le suggère, mais j'en parlerai pas là parce que c'est un peu plate, là, tu sais, c'est comme c'est des rapport, dates avec un, ça. Pour rappel, entre 2015 et 2016, plus d'un million de réfugiés sont arrivés dans le pays. Le 31 août 2015, l'ancienne chancelière Angela Merkel avait même prononcé une phrase qui est depuis devenue célèbre. Je vais pratiquer mon allemand. Wir schaffen das.
Oui.
Nous allons y arriver. C'est ce que ça veut dire pour rassurer le pays sur les défis en termes d'hébergement, d'accès au marché du travail, d'éducation et d'intégration dans la société. D'ailleurs, il y a l'Institut d'Allemand pour la recherche sur l'emploi qui vient de publier une étude qui constate des progrès importants sur le plan de l'intégration, même si, bon, il reste quand même là, des défis. Je commence par l'emploi. Près de 64% des réfugiés arrivés en 2015 occupaient un emploi fin 2024. Contre 70% de la population générale, donc quand même, c'est pas si mal. Mm-hmm. Environ 90% d'entre eux occupaient des emplois soumis à des cotisations sociales, donc avec une certaine sécurité d'emploi et tout, et la plupart travaillaient à temps plein. Cependant, il y a d'importantes disparités entre les hommes et les femmes, comme on peut s'en douter, alors que 76% des hommes occupent un emploi. Là, on parle toujours des femmes, des personnes migrantes. Mm-hmm. C'est le cas pour seulement 35% des femmes. Ouais. Comme principaux facteurs ou freins, l'étude identifie là, les charges liées évidemment à la garde des enfants, le niveau d'éducation moins élevé et l'accès limité aux cours de langue. La situation économique des réfugiés s'est améliorée aussi. Le salaire mensuel médian des réfugiés travaillant à temps plein est passé de 1 400 € en 2016 à 2 700 € en 2023. Ça demeure quand même le 71% du salaire médian national. Dans le même temps, il y a la dépendance envers les prestations sociales qui a diminué aussi. Seulement 34% des réfugiés en âge de travailler arrivés en 2015 dépendaient encore des aides de l'État en 2023, contre la quasi-totalité des de ces personnes-là au cours de leur première année en Allemagne. Je parle de l'éducation maintenant, ça fait le tour pour l'emploi. Là aussi, on note des progrès, mais plus mitigés. Faut savoir qu'en à peine 2 ans, les écoles allemandes ont accueilli environ 250 000 élèves réfugiés. C'est une intégration rapide sans précédent qui a souvent été possible grâce à des classes d'accueil offrant un soutien supplémentaire en allemand en dehors du système scolaire public. Mais si ces cours-là se sont avérés utiles au départ, plusieurs personnes le jugeaient qu'il ralentissait l'intégration et donc des réformes ont permis là, d'intégrer davantage d'enfants dans des classes normales là, tout en leur offrant quand même un soutien ciblé en allemand. Selon l'étude, de nombreux élèves réfugiés ont toutefois intégré des classes d'un niveau inférieur à leur âge. De plus, ben les conflits et le voyage vers l'Allemagne ont provoqué une interruption du parcours scolaire chez la plupart des jeunes qui ont dû fuir leur pays, on s'en doute. Et ça, c'est sans compter que l'apprentissage dans des logements collectifs représente une difficulté majeure.
Des logements collectifs?
Ben, bondés.
Oui, des familles nombreuses.
Exactement.
Oui, tout à fait. Ben oui.
Et là où le bas blesse, c'est d'ailleurs sur le plan de l'accès au logement. À leur arrivée, les réfugiés avaient d'abord été répartis à travers l'Allemagne selon un système de quotas. Est placé dans des centres d'accueil ou des logements collectifs. On voyait ça comme une solution temporaire, sauf que beaucoup de personnes ont vécu dans ces centres-là pendant des années. En 2019, il y a eu une analyse de l'Agence pour les réfugiés et les migrations qui a révélé qu'environ un quart des réfugiés reconnus, vivaient toujours dans des logements collectifs, donc 4 ans après leur arrivée. Il y a une enquête commandée par la plateforme d'information Mediendienst Integration qui montre qu'en 2023, c'était à peu près la même proportion de personnes, exactement la même proportion, toujours en 25% qui vivaient toujours dans ce type de logement-là, soit des centres ou des logements collectifs. Il y a deux choses qui rendent l'accès au logement extrêmement difficile. la pénurie de logements abordables et la discrimination sur le marché locatif. Les limites en matière de choix, du choix de résidence introduites en 2016 aussi ont beaucoup limité la mobilité des réfugiés, rendant l'intégration sur le marché du travail plus difficile. Par exemple, le rapport montre que les réfugiés ukrainiens arrivés après 2022, eux autres, ils ont été autorisés à choisir librement leur lieu de résidence. Ben, eux, ils ont pour la plupart pu trouver du logement privé beaucoup plus facilement.
Ouais.
Donc, c'est un bilan généralement positif, mais le chemin pour y arriver n'a pas été facile. À ce sujet-là, je vous propose un article de RFI qui a été relayé par Info Migrants et qui revient sur les nombreux défis qu'ont dû relever les communes allemandes qui étaient en première ligne de l'accueil des réfugiés. Par exemple, il y a une vague de solidarité sans précédent qui s'est mise en place pendant les premiers jours. On voyait des citoyens, citoyennes à la gare de Munich ou ailleurs, armés de pancartes « Refugees welcome », accueillant les réfugiés, leur venant en aide aussi sur le terrain alors que les administrations étaient souvent débordées. Je cite Katharina Neuwiedzahl, qui était chargée de l'intégration des réfugiés à Berlin. L'engagement de la société civile avait une force extraordinaire. Certains parlent du plus grand mouvement social de notre histoire avec la distribution de nourriture, des traductions, l'accueil de migrants par des particuliers. J'en suis très fière. L'article s'intitule « Wir schaffen das ». Je vous ai dit c'était quoi tantôt.
Tout allait bien, hein, c'est ça? On va y arriver, ouais.
10 ans plus tard, la politique migratoire d'Angela Merkel divise l'Allemagne. Puis je finis en disant que, ben malheureusement, on est aujourd'hui vraiment loin de l'état d'esprit de 2015.
Ben c'est ça que j'allais dire, ouais.
À l'approche actuelle de l'Allemagne en matière d'accueil de réfugiés est effectivement très différente. Le gouvernement a, par exemple, mis un frein à sa participation au programme de réinstallation de l'Union européenne, ce qui fait que moins de 1 000 réfugiés ont été admis dans le cadre du programme de l'Union européenne là, depuis le début de l'année 2025. En plus, ben le nouveau gouvernement de coalition qui est entré en fonction en mai a l'intention de mettre fin au programme d'admission humanitaire. Donc, au total, l'Allemagne avait promis d'accueillir 13 100 réfugiés dans le cadre de différents programmes de réinstallation là, en 2024-2025, alors que seulement 3 221 personnes ont été admises.
C'est
donc
peu, ouais,
c'est très, très peu.
Ouais.
C'est genre le quart.
Le quart, donc 13 000, puis c'est beaucoup moins qu'à l'époque, évidemment. Là, donc,
exactement.
Ouais. Frédéric Merz, hein, le chancelier de droite.
Oui, voilà, ouais.
Qui fait des belles politiques pour essayer de s'éviter l'AFD.
Ouais.
Ouais. Merci Marie-Ève pour les actualités allemandes. Je vais poursuivre dans un autre univers, je dirais, en Asie. Ça brasse pas mal en Asie. Premièrement, en Indonésie, la Commission nationale des droits de l'homme a déclaré avoir reçu des informations faisant état de 10 morts, 20 disparus, 900 blessés et 5500 arrestations au cours des 5 jours de manifestation il y a 2 semaines. Les manifs ont débuté le 25 août pour protester contre une indemnité versée aux députés sur fond de fort mécontentement face aux inégalités économiques. Elles ont dégénéré après la mort à Jakarta d'un chauffeur de moto-taxi écrasé par un fourgon de police et se sont transformées en mouvement de colère contre la police et les institutions.
Ouais, c'est multiple, hein, comme grogne.
Ça dégénère, évidemment, plus ça avance. On rappelle que les informations ont révélé que les 580 membres de la Chambre des représentants, les députés, percevaient une allocation de logement mensuel de 50 millions de roupies, 4 200 $, en plus de leur salaire. Cette allocation, introduite l'année dernière, représente près de 10 fois le salaire minimum mensuel à Jakarta. Dans la foulée, le président indonésien Prabowo Subianto a annoncé que 5 ministres ont perdu leur poste, dont la ministre des Finances, Mme Indrawati, ancienne administratrice du Fonds monétaire international et directrice générale de la Banque mondiale, et aussi le député Bodi Gunawan, ministre des Affaires politiques et de la Sécurité. voilà. Oui, voilà pour l'Indonésie.
L'Indonésie,
oui. Oui. Sinon, ben, au niveau du Népal, ça, c'est un peu inévitable. La semaine passée, l'armée népalaise a repris le contrôle de la capitale Katmandou après 2 jours d'émeutes, les plus violentes en 20 ans. Les troubles ont débuté lorsque la police a brutalement réprimé des manifestations qui dénonçaient le blocage des réseaux sociaux et la corruption des élites, faisant cette journée-là au moins 19 morts et plusieurs centaines de blessés dans tout le pays. Malgré le rétablissement des réseaux sociaux, la promesse d'une enquête sur les violences policières et la démission du premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli, des manifestants réunis sous une bannière intitulée « Génération Z » ont mis à sac bâtiments publics, résidences de dirigeants et autres symboles du pouvoir. Le Parlement a été incendié ainsi que le domicile du premier ministre démissionnaire. Plus de 13 500 détenus ont profité des violences qui ont enflammé le pays pour s'évader des prisons. Ensuite, deux jours après, le chef d'état-major de l'armée a entamé des entretiens avec diverses personnalités, dont des représentants et des représentants des manifestants. Revenu au pouvoir en 2024, Oli, le premier ministre, âgé de 73 ans, chef du parti communiste, entre guillemets, népalais, a dirigé 4 fois le gouvernement depuis 2015 et incarne cette élite de dirigeants dont la jeunesse du pays, privée d'emploi et lassée de la corruption, exige le départ. Je cite un policier à la retraite, interviewé dans un Vox Pop sur la rue.
Ça doit être édifiant.
Ben, c'est pas pire. Ces incompétents ont interdit les réseaux sociaux pour cacher leur corruption qui était exposée sur Internet.
Ah, quand même.
Pas pire, hein?
C'est un ex-policier, hein?
Oui, c'est un ex-policier. Mais quand les policiers disent ça, imagine la situation.
Ouais, non,
hein?
C'est ça.
Au total, au moins 51 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors de ces troubles les plus graves depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Nommé après 3 journées de tractation, l'ex-chef de la Cour suprême, Sushila Karki, a entamé au pas de charge son mandat à la tête du nouveau gouvernement comme première ministre. Après l'investiture de Mme Karki, le président a ordonné la dissolution du Parlement et convoqué le 5 mars 2026 des élections législatives. Et pour l'Indonésie, j'avais un petit bout à compléter. La fameuse ministre là, qui était au FMI puis à la Banque mondiale a été aussi visée lors des manifestations. Sa maison a été pillée le 31 août, comme celle de plusieurs législateurs. Et le calme est revenu après que le président Subianto a révoqué les avantages et privilèges des parlementaires, notamment l'allocation de logements, et suspendu les voyages tout frais payés à l'étranger des députés. Donc, c'est cela. On s'amuse.
C'est un petit peu trop ostentatoire.
Oui, on s'amuse comme on peut, hein. Mais ils l'ont bien mangé, la volée, parce qu'au Népal, puis en Indonésie, ça brassait, puis c'est pas terminé. Là, on va sûrement avoir. Je pense qu'on passe en musique, hein, si je me trompe pas.
Oui.
On va y aller avec une première pièce du palmarès Choc International. C'est en 8e position. C'est le groupe Wet Legs, la pièce Pillow Talk, de leur deuxième album seulement, Moisturizer, sorti en juillet dernier. C'est un groupe britannique fondé en 2021 par les musiciennes Ryan Tisdale et Esther Chambers. C'est un genre d'indie post-punk. Et pour montrer leur popularité certaine, ils étaient au Metropolis samedi dernier, le 13 septembre, à Montréal. Donc, on y voit avec Wet Leg. Wet Leg, la pièce Pilotage. Et on a reçu un appel d'une auditrice. Ce n'est plus en 8e position, mais cette semaine, c'est bien en 4e position du palmarès Choc International.
Est-ce que l'auditrice est en ligne? On pourrait lui parler.
Non, à raccrocher, là, elle était gênée.
Elle est à la console. Okay,
ouais. Donc, Simon, on s'en va justement. Hein? C'est un gros Britannique. On s'en va au Royaume-Uni.
Bien, la question migratoire, elle est de plus en plus explosive au Royaume-Uni, avec samedi passé à Londres une manifestation organisée par plusieurs groupes associés à l'extrême droite, avec une foule estimée entre 100 000 et 150 000 personnes.
Ben oui, on a vu ça. Ouais.
Mais plusieurs éléments d'actualité ont précédé cette manifestation xénophobe record dans l'histoire du pays, je pense dans les 2000 ans d'histoire du pays. Là, je ne sais pas si... Enfin, donc je commence avec l'entrée en vigueur début août de l'accord franco-britannique surnommé « Un pour un » ou « One in, one out », qui est un projet pilote jusqu'en juin 2026 et qui prévoit le renvoi vers la France d'exilés qui ont traversé la Manche contre l'entrée dite contrôlée d'exactement le même nombre d'exilés qui sont en mesure de démontrer leurs attaches au Royaume-Uni. Démonstration dont les critères sont très mal définis et que même les porte-paroles du département de l'Intérieur sont incapables d'expliquer clairement aux journalistes qui leur posent des questions. Mmh. Donc, l'arbitraire sera probablement la norme.
À l'ordre du jour.
Oui, pour toute la durée du projet pilote. Donc, dans l'application de cet accord France-Royaume-Uni, on comprend qu'on va beaucoup jouer sur le fait que, ben, forcément, les migrants qui traversent la Manche sont passés par la France et avant ça par d'autres pays considérés sûrs pour classer les demandeurs comme irrecevables, même si plusieurs d'entre eux ont fui, par exemple, les talibans ou d'autres contextes impossibles. Beaucoup viennent d'Érythrée, du Soudan, du Sud-Soudan. Beaucoup ont connu l'enfer libyen durant leur parcours pour finalement se retrouver détenus pour une durée indéterminée qui va dépendre de la durée, va dépendre de la vitesse des communications entre les bureaucraties françaises et britanniques. Donc, peut être long quelquefois. L'accord n'en est qu'à ses débuts. Il sera probablement contesté en cours. Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres officiels sur les détentions et les renvois qui découlent directement de cet accord-là. Mais on va y revenir dans les mois qui suivent. L'accord s'accompagne aussi d'une belle campagne sur les réseaux sociaux qui vise à dissuader les migrants de traverser la Manche. Campagne qui, nous dit-on, a été bien algorithmée pour s'afficher dans les comptes YouTube et Facebook des personnes en fonction de leur genre, de leur nationalité et de leur localisation dans le nord de la France, dans la région de Calais principalement. J'ai pas vu les capsules, mais j'imagine qu'il y aura beaucoup d'effets dramatiques et le Times nous apprend qu'au niveau des migrants bloqués à Douvres ou retenus dans un centre de rétention et que ça se termine par le décollage d'un avion rempli de personnes expulsées.
Ben oui.
Donc, je ne sais pas si ça va vraiment dissuader les gens, mais parce qu'ils sont au courant des risques, hein, de toute façon. Donc, pour les migrants jugés recevables depuis l'entrée en vigueur de l'accord ou qui sont arrivés au Royaume-Uni avant son application, les centres d'hébergement temporaire, ce sont souvent des hôtels spécialement réquisitionnés pour cet usage. Et de plus en plus, ces hôtels doivent être barricadés et surveillés par des agents de sécurité contre des manifestations à des manifestants anti-migrants issus soit de la droite dure ou soit ce sont des gens qui ont simplement avalé les campagnes de peur assez efficaces de cette alt-right britannique qui est très bien financée, très active dans les réseaux sociaux, cavalgame constamment pauvreté de la population générale et migration. Il faut dire que 22 % de la population britannique vit dans la pauvreté, donc l'argent public dépensé pour héberger les migrants, on répète inlassablement que c'est de l'argent qui ne profite pas aux Britanniques, tout en dopant les chiffres, évidemment. Autre tactique de cette droite xénophobe, on en a déjà parlé, les vagues anti-migrants sont souvent déclenchées par une nouvelle avérée, amplifiée ou fabriquée qui impliquerait un migrant qui aurait agressé une personne blanche. Et sur cette base, les hordes se déchaînent avec leur drapeau rouge et blanc de l'Angleterre médiévale. Dans le plus récent déferlement de haine, il y a effectivement un migrant qui a été reconnu coupable d'agression sur une jeune fille. Il va connaître sa sentence bientôt, donc la justice a suivi normalement son cours, mais il semble que le prétexte est trop beau pour revendiquer l'abolition complète du système d'asile, le renvoi immédiat de tous les migrants et la fermeture de tous les hôtels qui les hébergent. Et là, c'est un authentique argument donné par les anti-migrants. Les hôtels où on héberge des migrants, ça priverait les Britanniques de lieux de séjour pour leurs vacances.
Ah, ben oui, dans des petits bleds perdus, bien
sûr.
Ben
oui, des truck stops le long de routes horribles, là, tu sais. Même les municipalités s'en mêlent. Il y a la petite ville de Epping, au nord de Londres, qui avait réussi à obtenir une injonction pour fermer un hôtel où sont hébergés 160 migrants. Mais un tribunal supérieur a renversé la décision qui faisait juste mettre à la rue des dizaines de personnes sans aucune solution de rechange et qui créait une jurisprudence passe pour fermer tous ces hôtels à travers le pays sur simple demande d'une mairie. Ça aurait été le bordel. Donc, le Royaume-Uni se serait retrouvé avec 32 000 personnes en attente de statut. C'est le chiffre actuel, qui sont actuellement hébergés dans 200 hôtels à travers le pays. Mm-hmm. Donc, 32 000 personnes migrant à la rue, puisque les hébergements gérés par l'État sont à pleine capacité. En attendant, non, ils ne seront pas à la rue. Ils n'y vont même plus dans la rue. Ils se terrent dans leur chambre, rideaux fermés, d'où ils entendent quand même les slogans haineux, mais aussi ils ont vu les blessures subies par certains de leurs voisins de chambre qui se sont aventurés à l'extérieur au mauvais moment et ça crée des traumatismes. Mm-hmm. Le gouvernement envisage de déplacer le problème et convertir en logement temporaire des bases militaires qui se trouvent souvent assez loin des milieux urbains, qui sont des infrastructures généralement délabrées, qui s'apparentent beaucoup à des prisons. Qui ne sont pas équipés pour offrir un cadre de vie décent aux personnes migrantes, que ce soit en termes sanitaires, le chauffage, l'humidité. Souvent, c'est difficile d'accès pour tout le monde qui pourrait venir en aide aux migrants, les avocats, les psychologues, les travailleurs, les traducteurs, etc. Donc, isolement physique égale aussi souvent isolement psychologique et détresse. Donc, cette grogne ultranationaliste qui est bien perceptible dans les sondages, elle pousse encore plus à droite le gouvernement actuel, qui en est même arrivé à suspendre le regroupement familial, comme on l'a vu en Belgique récemment. Au Québec aussi.
Au Québec, oui, je vais en parler un peu tantôt. Ouais.
La ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, affirme que le système d'asile, elle n'entend pas le supprimer, comme le demande l'extrême droite anglaise, mais bien le moderniser. Mmh. C'est son terme.
L'optimiser,
oui, oui. Donc, elle dit moderniser tout en ajoutant que le système actuel est en proie au chaos des gangs criminels. Donc, un système d'asile en proie au chaos des gangs criminels. Exactement. J'ai tenté d'en savoir plus sur ces allégations surprenantes, mais aucune explication n'a été fournie. Ça va pas plus loin que le slogan. C'est un genre de clip qu'elle a beaucoup répété, alimentant encore plus les tensions sociales, alors que le gouvernement Starmer dit prendre toutes les mesures pour calmer la drogue, ce dont on doute fortement. Ouais. Reste que malgré tout, ça a été une annonce de dernière minute, sans consultation, sans préparer le terrain. Ça vient compromettre l'analyse de milliers de dossiers, avec toutefois une exception. Le regroupement familial est maintenu pour les réfugiés ukrainiens.
Okay.
Très rapidement, autre mesure du gouvernement, elle aussi un peu improvisée, la signature fin août d'un accord avec l'Irak pour accélérer les renvois de migrants irakiens, accord jugé complètement inutile étant donné la baisse très importante du nombre d'Irakiens qui arrivent de manière irrégulière. Mais Mme Cooper avait donné l'impression de prendre des actions musclées, ce qui semble pas fonctionner puisque la grogne anti-migrant demeure très forte.
OK. Ben écoute, bon résumé, Simon, des actualités britanniques. Il se passe malheureusement beaucoup de choses.
Il s'en passe. Et, je pense que c'est assez inusité, là, la virulence de cette grogne anti-migrant.
Oui, ben c'est cette espèce de révolte des personnes intolérantes. Donc, je vais enchaîner avec un petit sujet au Québec, un petit sujet quand même, ça a été une petite nouvelle qui n'a pas été beaucoup reprise, mais quand même qui est importante, et ça fait écho à ce que Marie-Ève a parlé, entre autres, il y a deux semaines. Donc, le gouvernement du Québec a refusé du financement fédéral destiné à lutter contre le racisme systémique dans le système judiciaire, disant ne pas être en accord avec l'approche du programme. Le fédéral a d'abord offert un financement de 6,64 millions aux provinces et territoires en 2021 afin d'améliorer l'équité devant les tribunaux. Réparti sur 5 ans, cet investissement visait à remédier à la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale en encourageant le recours à des évaluations culturelles avant le prononcé des peines. Les évaluations de l'incidence de l'origine ethnique et culturelle, EIOEC, analysent les effets de la pauvreté, de la marginalisation, du racisme et de l'exclusion sociale sur le délinquant et son expérience de vie. Ça, c'est entre guillemets, c'est la description officielle. Alors que la plupart des provinces ont accepté le financement fédéral destiné à soutenir les accusés ou à couvrir les coûts des évaluations, au moyen des programmes d'aide juridique, le Québec ne l'a pas fait. Une porte-parole du ministère de la Justice a fait savoir que Québec ne prend part à aucune EIOEC, donc les évaluations.
Une société distincte.
Oui, elle a ajouté que le Québec n'adhère pas à l'approche sur laquelle le programme de financement est basé, soit le racisme systémique. Ces évaluations sont utilisées depuis plus de 10 ans dans les tribunaux canadiens par les avocats de la défense qui cherchent à obtenir des peines équitables. Jusqu'à récemment, le Québec faisait figure d'exception. Récemment, il y a eu la production de la toute première évaluation raciale et culturelle présentée à une juge québécoise avant sa décision sur la peine en juillet. C'était le cas de Frank Paris, dont Marie-Ève nous a parlé il y a 2 semaines. Je ne vais pas le réexpliquer. Vous avez écouté l'émission il y a 2 semaines. L'approche actuelle de la province empêche les personnes noires et autres personnes racisées d'avoir accès à des services d'aide juridique essentiels fondés sur la justice et adaptés à leur culture. Pourtant, les statistiques fédérales publiées dans un rapport du ministère canadien de la Justice en 2022 ont montré que les personnes noires étaient 24% plus susceptibles de purger une peine après leur arrestation ou condamnation et 36% plus susceptibles d'être condamnées à 2 ans ou plus de prison que les délinquants blancs. Le Canada a récemment élargi son programme d'aide juridique afin de remédier aux disparités reflétées dans les statistiques fédérales, annonçant en 2024 une augmentation du financement à 16 millions sur 5 ans pour répondre à cette problématique, dont celle-ci, là, avec les évaluations. Mmh. En plus du financement des organismes de défense des droits civiques qui produisent les évaluations, les cliniques d'aide juridique provinciale et territoriale ont également reçu du financement. Le programme a également soutenu des efforts nationaux de formation et des campagnes de sensibilisation dans la plupart des provinces, sauf au...
Pas au Québec.
Oui, au Québec. Donc, voilà, c'était la suite de la nouvelle. Mais à suivre quand même, c'est intéressant comme comme enjeu. Mm. Donc, on va y aller avec quelques notes de musique et je reviens avec Simon. Vas-y, Simon.
Ben, je vous parle principalement de la route des îles Canaries et je commence avec la Mauritanie qui, avec le Sénégal, la Gambie et les différentes Guinées, est l'un des points d'embarquement de cette route maritime très dangereuse. Quelques chiffres pour commencer. Fin août, au large des côtes mauritaniennes, une embarcation sur laquelle se trouvaient 160 personnes a chaviré. Seulement 17 migrants, tous d'origine gambienne et sénégalaise, ont pu être secourus, donc on présume que tous les autres sont décédés. Avec le récent bilan en chiffres que Marie-Ève nous a présenté il y a quelques semaines, on a pu constater que c'est une route quand même pas mal moins fréquentée qu'auparavant, mais son taux de mortalité demeure malheureusement l'un des plus élevés. Mm-hmm. Il y a eu un autre épisode dramatique à la fin du mois d'août. Celui-là nous montre que la cohabitation forcée pendant plusieurs jours sur des bateaux surpeuplés, ça peut aussi échauffer les esprits, ce qui constitue en soi un risque de blessure ou de mortalité. On apprenait qu'à bord d'une embarcation où se trouvaient plus de 300 migrants, dont une partie a été rescapée en mer par une ONG espagnole, on aurait volontairement jeté à la mer une partie des passagers qu'on accusait de sorcellerie. Et c'est pas la première fois qu'un incident du genre se produit. Donc, je disais cohabitation forcée, mais l'expression la plus utilisée est promiscuité involontaire, quand on veut expliquer comment les gens en arrivent à perdre la raison à bord. Mais selon les autorités médicales, les facteurs les plus déterminants dans l'émergence de ces délires paranoïaques qui mélangent pouvoir surnaturel et malédiction, ce serait la déshydratation et l'exposition continue au soleil.
Ben oui,
Et aussi la promiscuité, forcément. Sinon, début septembre, il y a une autre embarcation à la dérive dont les moteurs étaient en panne qui a été interceptée par les autorités mauritaniennes qui transportait 171 personnes d'Afrique subsaharienne. Pas de mort dans ce cas-ci, mais beaucoup de migrants souffraient de coups de chaleur et encore une fois de déshydratation, au point que 8 d'entre eux ont dû être hospitalisés d'urgence dans un état critique. Ça faisait 14 jours que l'embarcation était en mer. Mm-hmm. Je reviens à la fin du mois d'août, alors que Human Rights Watch publiait un rapport accablant qui accuse la Mauritanie d'avoir commis durant les dernières années des violations graves des droits humains envers les migrants. C'est un rapport très détaillé de 163 pages que vous pouvez trouver en français sur hrw.org. Mm-hmm. Le titre « Abus liés au contrôle des migrations en Mauritanie et à la politique d'externalisation de l'Union européenne ». On y retrouve plus de 200 témoignages de migrants qui ont subi les violences des policiers, militaires et autres gardes-côtes mauritaniens. On y parle entre autres d'arrestations arbitraires, de détentions indéfinies, de privation d'eau, de nourriture et de médicaments, d'humiliation et de torture. Il faut rappeler qu'une grande partie de cette gestion abusive des migrants est financée par l'Union européenne et par l'Espagne le cadre de différents accords bilatéraux qui valent chacun plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui place Bruxelles et Madrid dans une position assez directe de complicité avec ces crimes. Mais je présume que dans ces capitales européennes, on se frotte les mains puisqu'en 3 ans, la Mauritanie a quintuplé son taux d'interception des embarcations. Comme bien d'autres pays, la Mauritanie procède aussi à des expulsions de masse en renvoyant illégalement chaque année des dizaines de milliers de personnes vers le Mali et le Sénégal, souvent en plein désert. Ça nous rappelle un peu ce que faisait l'Algérie.
L'Algérie, oui.
Parfois dans des régions où les groupes djihadistes sont très actifs. Seulement dans les 6 premiers mois de 2025, les autorités mauritaniennes disent avoir expulsé 28 000 personnes, ce qui est énorme. Je vous cite un travailleur d'une des rares associations qui viennent en aide aux migrants dans la ville frontalière de Rosso, au Sénégal. Les migrants qui arrivent ont généralement passé plusieurs jours sans se laver ni manger et certains arrivent avec bien peu de vêtements ou même pieds nus. Donc, ça donne une bonne idée de comment sont menées ces expulsions de masse de migrants, dont une importante proportion sont des mineurs non accompagnés. ou encore mineurs ou pas, certains d'entre eux possèdent pourtant des papiers du Haut Commissariat pour les réfugiés, ce qui en principe devrait les protéger de ces renvois sommaires, mais les autorités frontalières mauritaniennes ne s'embarrassent pas de ces détails légaux. Mm-hmm. Ça reste un rapport difficile à lire puisque les témoignages n'épargnent pas les détails les plus dégradants. Les choses sont dites telles qu'elles se sont produites, donc voilà, je tenais à aviser l'éventuel lecteur ou lectrice. Du côté européen comme mauritanien, lors de la publication de cet accablant rapport, on a à la fois nié les allégations de mauvais traitement et de déni des droits humains, tout en vantant les mesures mises en place pour corriger la situation. Petit problème de communication. La Commission européenne a déclaré très laconiquement que son partenariat avec la Mauritanie était, je cite, « solidement ancré dans le respect des droits humains ».
Ah, hein? ils vont l'arrêter, là.
Ben non. Donc, Nouakchott, qui est Mathieu?
La capitale de la Mauritanie.
Voilà, a été un peu plus explicite et a dit vouloir travailler avec le HCR pour établir de nouveaux protocoles, donc ce sera à surveiller. Mm-hmm. Beaucoup d'ONG sur le terrain vont observer la situation de près dans les mois à venir, mais tant que la pression européenne demeurera aussi forte pour faire en sorte que le moins d'embarcations possibles rejoignent les îles Canaries, on a peu de chances de constater de grandes améliorations dans les pratiques actuelles. Surtout que ce financement, il suffit de menacer de le couper pour contraindre la Mauritanie à continuer d'exercer cette brutalité.
Ouais.
Je termine en vous parlant de deux navires de sauvetage. Il y a le Open Arms de l'ONG espagnole du même nom, qui navigue autant sur l'Atlantique que sur la Méditerranée, qui a décidé d'être à quai pendant 2 mois au port de Santa Cruz de Tenerife, sur les îles Canaries, pour y accueillir le public et l'informer de sa mission, okay. L'éduquer sur les réalités des routes migratoires des Canaries, pourquoi les migrants l'empruntent malgré les risques énormes. Donc, on veut casser le discours actuel sur les personnes migrantes qui est très déshumanisant, qui va rarement au-delà des statistiques. En plus des portes ouvertes sur le bateau, les travailleurs de l'ONG Open Arms vont visiter les écoles de la région pour y donner des conférences. Donc, belle initiative que je salue. Personnellement, j'aimerais voir ça à Douvres ou n'importe quelle autre ville côtière britannique où l'opinion publique est vraiment plus fermée que jamais.
Et en Italie, hein?
Italie, en Grèce, voilà. Petite suggestion de lecture. Maintenant, un article d'Infomigrant dont le titre est « À bord du Nadir, le navire humanitaire de Rescue Ship en mer Méditerranée ». Rescue Ship, R-E-S-Q-Ship, est une organisation non gouvernementale allemande qui a invité des journalistes à passer quelques jours sur le bateau de sauvetage, ce qui donne un récit haletant, carrément, là, et vraiment passionnant. On apprend non seulement comment se déroulent les opérations, mais aussi on en profite pour dénoncer les restrictions que le gouvernement italien impose aux ONG qui sillonnent la Méditerranée et comment les capacités opérationnelles sont considérablement affectées. Et en quoi ça nuit à leur mission, finalement, de sauver des vies. Donc, lecture obligatoire, je le déclare.
Oui.
J'appelle le titre « À bord du Nadir, le navire humanitaire de Rescue Ship en mer Méditerranée ». Et quelle surprise, c'est sur infomigrant.net.
Ben, merci beaucoup, Simon, pour toutes ces actualités ouest-africaines, en particulier, Mauritanie.
Oui, Sahel, Mauritanie. Oui,
exactement. Donc, on va retrouver Marie-Ève dans quelques minutes avec moi. Simon retourne à la console.
Et oui, je retourne me reposer.
Oui, bien sûr, fais pas d'erreur. Donc, on y va avec Jérôme 50.
Donc essayez de mettre dans mes narines du savon. Allez, c'est vous, ben on a farine.
Tu pilles pas d'ampoule. Tu pilles pas d'ampoule. Tu pilles pas d'ampoule. Tu pilles pas d'ampoule. Tu pilles pas d'ampoule.
1, 2, 3, 4, 6, 4, les tabarnak. J'avais de virer débile à coup de séquelle et des débiles. Je m'indigne devant la fucking pas pour ma ligne. Qui renifle la moindre ligne ou ligne. Ça fait qu'à la santé. De Pablo Escobar, on va en virer une sacrement à soi au bar. Pas oh, ben qu'à moi ça, la belle grande chicks, la bouche c'est qui bolette, mais si moi tu fais le saut quand la sort des toilettes. Y'a plus de bois d'ampoule.
Y'a plus de bois d'ampoule.
Ce n'était pas mon oncle Serge, mais bien Jérôme 50 avec la pièce « Il n'y a plus de poudre dans la poudre », pièce de son dernier album sorti en mai dernier, 2025, qui s'appelle « Anarcolique », son troisième album sur Étiquette Bravo. C'est un auteur, compositeur-interprète de Québec, actif depuis 2018, quand ça a été connu quand même, c'est un auteur aussi. Il y a toujours des musiciens avec lui. Et il est en concert dans les prochaines semaines un peu partout au Québec. Allez voir son site, donc Jérôme 50. Et là, il n'y a aucun lien, là, mais je vais vous parler de la Colombie.
C'est vraiment ce que j'allais dire. J'étais comme, OK, là, c'était un peu douteux quand même. Comme
mais je ne parlerai pas de, ce, de cocaïne.
De poudre, non.
Non, on va parler de la caravane au Catatumbo, la culture autochtone en danger. C'est un article du Journal des Alternatives publié le 5 août dernier. C'est de l'information, je trouve ça intéressant. C'est pas une nouvelle, là, tu sais, extraordinairement dramatique, là, mais c'est plus une information sur quelque chose qu'on connaît pas, évidemment. Donc, leurs liens avec la forêt vierge sont plus nombreux qu'avec la société occidentale. Leur culture est peu symbolique. Leur langue est parlée, mais non écrite. Ils et elles sont chasseurs et cueilleurs, timides et de petite taille, et sont en danger d'extermination culturelle. Ce sont les Autochtones Bari, les premiers habitants du Catatumbo, en Colombie. Ce peuple binational survit... Ben, Colombie est aussi...
Venezuela,
ouais, je me trompe pas. Ce peuple binational survit aujourd'hui malgré la chasse impitoyable à laquelle s'est livrée l'Espagne coloniale, malgré toutes les vies détruites par la South American Gulf Oil Company.
Une pétrolière
américaine pour exploiter les gisements de pétrole concédés par le gouvernement colombien dans les, au 20e siècle. Bien que le peuple habite toujours dans la région, habite toujours la région aujourd'hui, la colonisation et l'exploitation des combustibles fossiles lui ont fait perdre des territoires. Peu à peu, les barils ont été acculés dans la partie moyenne supérieure de leur montagne. Devant la caravane internationale pour le Catatumbo, qui a entamé début août sa dernière ligne droite en visitant la communauté autochtone de Bridikakera, son représentant s'est inquiété des nouvelles menaces qui pèsent sur son territoire, l'extraction du charbon, l'ouverture de nouvelles mines légales et illégales et l'exploitation de gisements de pétrole inactifs. Aux problèmes culturels et sanitaires s'ajoute aujourd'hui un conflit territorial causé par l'inefficacité et le non-respect de l'État. Les paysans veulent aussi développer leur propre territorialité dans la zone revendiquée par le peuple Bari. Tant les Autochtones que les paysans ont tenté de parvenir à des accords et cohabiter sur le territoire, mais les fonctionnaires du gouvernement nommés pour résoudre le problème comme intermédiaires disent depuis le début aux communautés autochtones que c'est la faute des paysans et disent aux paysans que c'est la faute des Autochtones s'il n'y a pas d'entente. À ce jour, une solution satisfaisante pour les deux secteurs concernés est loin d'être trouvée. Donc ça, il y avait une caravane récemment en Colombie pour faire connaître ce peuple-là qui est moins connu. Donc, Barry. Barry, voilà. Donc, c'était ma petite nouvelle d'Amérique latine. Je vais poursuivre avec toi.
Ben oui, mais tu vas voir qu'il y a un lien avec parce que je vais parler de protection du territoire puis de gestion du territoire aussi par les Premières Nations. Mm-hmm. Puis enfin, ben là, il y a des bonnes nouvelles. On n'en a pas souvent, fait que... Mon micro va être consacré, en fait, à deux bonnes nouvelles.
Oui.
La première, d'abord, le chef de la communauté Innu de Ouachouat-Mac-Magnotenam a pu célébrer le 2 septembre son 100e jour de mandat avec l'annonce de la création d'une aire protégée de conservation autochtone sur le territoire du bassin versant de la rivière Moisy. Selon le conseil de bande, ce serait la première initiative de ce genre-là au Québec. Puis pour bien comprendre l'importance de cette annonce-là, faut que je vous explique un petit truc un peu technique, mais faut que je passe par là.
Oui, oui.
Faut savoir que le Québec a déjà un mécanisme pour créer ce qu'on appelle des aires protégées d'initiative, j'insiste sur ce mot-là, autochtones, les APIA.
Oui.
Sauf que le gouvernement tarde dans la mise en œuvre de ce processus-là et donc aucune APIA a encore été créée à ce jour. Et là... La nouvelle dont on parle, en fait, c'est une aire protégée de conservation autochtone. Donc, la particularité d'une APCA,
oui.
C'est qu'elle est plus à l'image là du modèle de gestion autochtone, disons, et des Premières Nations. Puis, elle est gérée directement par les communautés, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un pouvoir ministériel délégué, par exemple.
Oui.
Puis, elle est reconnue par le fédéral.
OK.
Mais selon le ministère de l'Environnement
du Québec, ouais.
Comme le statut des APCA est inscrit dans aucune loi formellement
québécoise
ou même fédérale, même si le fédéral les reconnaît,
ouais.
Ben, elle confère vraiment aucune protection de la part du gouvernement du Québec. La création d'une APCA, ce que ça fait, c'est un geste d'autoproclamation par lequel une communauté s'engage à protéger son territoire. Puis dans le cas de la rivière Moisie, ben c'est pas une mince tâche parce que on parle d'un immense territoire là, qui commence à l'embouchure de la rivière. Ça s'étend sur des centaines et des centaines de kilomètres jusqu'aux environs de Labrador City et Fermont au nord. Mais le bassin versant est aussi de plusieurs dizaines de kilomètres de large, ouais, ouais. D'est en ouest. Donc c'est ça, c'est quand même un défi. La décision de créer une aire protégée est motivée par l'importance de la rivière Moisie pour la nation et nous, au-delà de la protection de la biodiversité comme telle, la création de cet espace-là permet aussi de préserver les savoirs et les traditions qui sont transmises depuis des milliers d'années. La programmation de la protégée, c'est seulement la première étape là, d'un processus plus large. Les prochaines étapes, c'est le conseil de bande veut lancer une grande consultation auprès de la communauté pour décider des modalités de protection, mais aussi pour choisir un nom en Innu et Moon
pour
l'air protégé.
L'air protégé, oui.
Ça, c'est pour le Québec. Autre victoire, cette fois en Ontario. Voilà. La Cour suprême du Canada a décidé au début d'août de ne pas entendre l'appel de la municipalité de South Bruce Peninsula, donc péninsule sud, péninsule Bruce Sud, qui est sur le lac Huron, qui revendiquait une partie de la plage de Sable Beach, laquelle est rattachée à la communauté autochtone de la Première Nation Saugeen. Le refus du plus haut tribunal vient confirmer deux autres décisions de tribunaux inférieurs et met donc fin à une bataille judiciaire vieille de 30 ans, imaginez-vous donc. Ouais. Les familles qui avaient acheté des lots de terre sur le littoral, aujourd'hui en territoire autochtone, sont elles aussi déboutées. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les familles et les commerçants de la localité de Sable Beach vont devoir quitter les lieux ou alors verser un loyer au conseil de bande de la Première Nation Saugeen s'ils veulent rester. Je reviens un peu en arrière. En 95, donc je dis que ça fait 30 ans, ça a commencé, donc c'est ça, en 95, la Première Nation Saugeen a revendiqué devant les tribunaux la section publique de la plage. La nation possédait déjà la partie sud là, d'une quinzaine de kilomètres qui est rattaché à la réserve située entre Southampton et Sable Beach. Et donc, après cette victoire judiciaire-là historique dont je parle, toute la plage appartient désormais aux Autochtones, qu'ils ont d'ailleurs rebaptisé plage Saugeen le 1er juillet dernier. Mm-hmm. Comme d'habitude, la Cour suprême du Canada n'a pas donné les raisons de son refus, parce qu'elle n'a pas tenu de le faire. Mais on peut quand même se référer à la décision de la Cour supérieure de l'Ontario, qui avait conclu en 2023 que le Canada avait violé les droits des Autochtones en vertu du traité 72 en ne préservant pas l'intégralité de la réserve après que la Nation Saugeen eut signé le dit document en 1854. Je termine en disant que la réputation de la municipalité régionale de South Bruce Peninsula avait été entachée lorsque son ancien maire, Gary Michi, avait dû démissionner en 2023 après avoir tenu des propos racistes contre les Autochtones, des propos qui avaient refait surface dans un enregistrement audio publié de façon anonyme. Je rentrerai pas dans les détails du contexte, mais disons que l'ancien maire s'opposait, pour faire ce cours, là, à un investissement de plusieurs millions de dollars pour la construction d'usines de traitement des eaux puis la modernisation des installations qui desservait une communauté autochtone. Et donc, dans l'extrait de 43 secondes, Gary Michi prononce ces sages paroles. Pourquoi dépenser 65 millions de dollars pour une station d'épuration qui va durer 20 ans parce qu'ils vont pas s'en occuper? Regardez leur maison. Je peux comprendre qu'on soit pauvre, mais on peut aussi être pauvre et nettoyer. Donc, évidemment, c'est plus lui qui est maire.
C'est plus lui qui est maire, mais c'est le maire actuel qui a perdu, par exemple,
exactement.
En cours ouais, cette semaine ça. Pour la plage.
Puis là, ben, la ville, la municipalité n'a plus de recours, donc ça clôt vraiment
ça
le dossier.
C'est le dossier
là.
Pour le lac ouais, sur le lac Huron, je le rappelle.
Fait que quand même deux bonnes nouvelles de revendication territoriale là, puis de protection du territoire. Il n'y en a pas souvent, fait que c'est ça.
Parfait. Merci, Marie-Ève. Donc, on est rendu à l'agenda antiraciste.
Qui sera foisonnant, n'est-ce pas?
Oui, prenez crayon, papier et soyez attentifs et attentives. Il y a beaucoup de choses et ça commence dès demain. Ben, il faut dire que cette semaine, il y avait une marche vers Ottawa qui se passe donc du 15 au 19 septembre. Il y a des activités, des initiatives coordonnées d'un bout à l'autre du pays avec comme objectif de dénoncer la position du Canada face à la Palestine et à Gaza. Et la manif finale est demain, vendredi 19 septembre, à partir de 18h. Le rendez-vous, c'est au Musée canadien d'histoire à Gatineau et ça marche vers le Parlement, donc demain soir, 19 septembre. Samedi matin, 9h, à Montréal, une contre-manif contre une nouvelle manifestation transphobe, la même gang qui avait organisé celle en septembre dernier, l'EPNE, je n'y connais pas. Donc, c'est à 9h demain, samedi 20 septembre, coin Sainte-Catherine et Guy, donc métro Guy. C'est organisé par la FAGS, entre autres. Sinon, un autre rassemblement qui est un peu mystérieux, c'est Fixons les limites. C'est pour la justice climatique, migrante, économique, la souveraineté autochtone contre les guerres impérialistes. Ça se passe le 20 septembre au Parc Jeanne-Mance à Montréal, de 13h à 18h. Et c'est organisé par quelque chose qui s'appelle Draw the Line, donc Fixons les limites, drawtheline.world-canada. Et ce qu'on dit, c'est que des rassemblements, des grèves et des marches ce 20 septembre dans l'ensemble du Canada, partout au pays, pour exiger que Carney, le gouvernement canadien, choisisse un avenir juste et sûr pour nous tous.
Ouais, j'ai vu des affiches de ça dans Milton Park, puis j'ai pas trop compris c'était qui faisait partie de ça.
C'est ça, j'ai essayé de regarder sur le site, c'est Draw the Line, ou Fixons les limites, mais c'est partout au Canada. En tout cas, je trouve pas que j'en demande samedi pour les gens de Montréal, okay. Si vous êtes curieux, curieuses. Sinon, dimanche, le 21, Festival Défendre la police 2025, c'est la 4e édition. Ça se passe au parc Sun Yat-sen, dans le quartier chinois à Montréal, de midi à 19h. Et on dit que c'est des activités pour célébrer le travail des groupes communautaires qui luttent contre le système de justice pénale et qui offrent des alternatives solidaires. C'est organisé par la Coalition pour le définancement de la police. Donc ça, c'est dimanche le 21, toujours à Montréal. Le 22 septembre, à Ottawa, se libérer des permis de travail fermés, action symbolique sur la colline du Parlement. C'est organisé par Amnesty International dans le cadre des journées d'action pan-canadienne pour demander la fin des permis de travail fermés. Je ne connaissais pas ces journées-là. Ça doit être la semaine prochaine. J'ai rien trouvé au Québec, mais à Ottawa, le 22 septembre, dès 18h, si ça vous intéresse. Sinon, ben le 23 septembre, c'est quasiment tous les jours qu'il y a quelque chose. Lancement d'un livre qui s'appelle « Gentrification et résistance à Montréal ». C'est dès 17h à la livrerie sur la rue Ontario à Montréal.
Pas très loin d'ici.
Pas très loin d'ici, organisé par les presses de l'Université de Montréal. Un ouvrage collectif dirigé par Marcos Antilovici. Pour l'occasion, l'auteur sera en conversation avec Julien Simard, conseiller scientifique de la chaire Une seule santé urbaine à l'Université de Montréal. Ça dit que, afin d'analyser les dynamiques et les conséquences sociales de la gentrification à Montréal, ainsi que les formes de résistance qu'elle rencontre, cet ouvrage regroupe des textes de spécialistes de l'urbanisme, des mouvements sociaux et de l'histoire sociale. Il fait également entendre la voix de porte-parole d'organismes de lutte pour le droit au logement à Montréal et au Québec. Donc, le 23 septembre à la livrerie. Le même soir, c'est le lancement de la nouvelle session de l'UPOP Montréal au Centre Taverne dans Pointe-Saint-Charles. Dès 19h, donc le 23 septembre, il y aura une prestation de la fanfare d'occasion. Nouvelle fanfare, je pense que j'ai vu dans une manif en fin de semaine dernière. Sinon, 30 septembre, midi, devant l'Assemblée nationale, manifestation contre le PL97 sur le régime forestier, organisé par MAMO et le FREDA, Front de résistance écologique et de défense autochtone. Donc, 30 septembre, midi. Le 30 septembre, toujours, Every Child Matters, à Montréal, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Dès 13h, donc le 30 septembre, au Monument Cartier sur l'avenue du Parc, au Parc du Mont-Royal, on encourage tout le monde à porter des T-shirts orange et à porter leur tambour en signe de solidarité. Donc ça, c'est le 30 septembre.
À Montréal,
mais il y en a partout au Canada, des manifestations. Le 4 octobre, là, on saute quelques jours, toujours au Monument Cartier au Mont-Royal, c'est organisé par Bikers for Palestine, c'est une promenade en vélo,
masse critique,
dès 13h le 4 octobre, ils en font une par mois, le premier samedi de chaque mois. C'est une boucle de 10 km sans difficulté, qu'on dit, pour les gens intéressés à, donc, le 4 octobre, Bikers for Palestine. Est-ce qu'il me reste du temps? Je vais vérifier moi-même.
Oui,
écoute,
moi je dis oui.
Il en reste un petit peu. Hein? Je vais y aller avec une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui est amenée par Québec réunifié. C'est l'amélioration de l'accès au regroupement familial au Québec. Date limite 1er octobre pour signer. Je vous lis juste les deux demandes. Il demandait au gouvernement du Québec d'annuler l'arrêté ministériel du 26 juin 2024 et de permettre immédiatement la réception des demandes d'engagement et de reprendre l'émission des CSQ, Certificat Sélection du Québec, pour le regroupement familial.
2024 ou 2025?
Ils ont marqué 2024, mais je pense que c'est 2025. Ben, hein? C'est récent, on avait parlé à l'émission. Donc, annuler l'arrêté, permettre immédiatement la réception des nouvelles demandes et de reprendre l'émission des CSQ et de s'assurer d'un traitement en continu des demandes d'engagement de manière à ne jamais excéder un délai de traitement supérieur à 12 mois afin de minimiser les graves préjudices encourus par ces familles. J'ai été voir, la pétition est à 4 000, 5 000 noms actuellement. C'est jusqu'au 1er octobre. Donc, il me restera deux autres pétitions pour dans deux semaines qu'on pourra donc présenter à nos auditeurs, auditrices, avides de signer en ligne des clics, clics, clics.
J'ai signé.
Donc, on va y aller bientôt avec la conclusion de l'émission.
Donc, paraît que c'est la rentrée, hein?
Ben oui, puis s'il y a des gens qui disent qu'il se passe rien, puis que dans les deux prochaines semaines, ils vont nulle part.
Puis que la gauche fait rien,
ben
là?
C'est ça, puis qu'on est tout devant la TV.
Entre le 30 septembre et le 4 octobre, il n'y avait rien.
Oui, c'est vrai. Ben, il n'y avait rien dans ma liste, hein?
C'est ça.
Oui, mais écoute, je passe tous les réseaux, puis toutes les... Hein, quand même. Donc, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à Marie-Ève.
Oui, c'est moi, c'est mon nom.
Simon.
C'est mon nom aussi.
Pour la console, pour le contenu, pour la bienveillance et le sourire dans la voix.
Donc, le soleil.
Oui, on peut aller jusqu'au soleil. Merci Mathieu, c'est ton nom. Ben oui. À l'animation, toujours.
Choix musicaux.
Oui, tout à fait. Et animation de notre pub. Donc, on va, avant de se quitter, je vais répéter rapidement que nous avons deux sites Internet, un et demi. Notre site à nous, à patrizanonyme.info pour toutes les émissions archivées, entre autres. Et sur la page, notre page sur le site de choc.ca, nous avons aussi nos émissions. Celle de ce soir pour les gens qui veulent réécouter ou qui ont manqué un bout devrait être en ligne demain matin. C'est assez rapide en général. Sinon, une page FB pour tous ces événements-là dont je vous parle, entre autres, des articles aussi de médias européens, entre autres. Et aussi notre courriel apatridesanonymes@resist.ca pour nous envoyer des suggestions, des demandes, des informations, des événements, etc. Donc, voilà. Fait qu'on va terminer tranquillement avec une dernière pièce un peu plus longue pour conclure cette émission du 18 septembre 2025. On va y aller avec du jazz, Marie-Ève.
Jazz.
Un duo de jazz contemporain, piano...
Je m'appelle Gontran, j'adore le jazz.
Un duo de jazz contemporain, batterie, piano. C'est Nick Fraser et John Camel Farah. La pièce Twigs et l'album s'appelle Farazer. Tu sais, Fraser. Farah et Fraser, donc Farazer. Ouais. Album de 2024. Fraser est de Toronto et Farah est de Berlin. Un beau duo qui est venu en concert en 2025 à Montréal, mais ça fait déjà quelques temps. Donc, on se revoit par la parole le 2 octobre. Peut-être on aura une entrevue. Ça devrait être seulement Marie-Ève et moi. Pour l'instant, là, Simon a envoyé son avis, son préavis là, de l'absence.
Oui. Je suis le dernier à prendre des vacances. Alors,
il a demandé un billet du médecin, mais il n'a pas voulu nous en donner.
Non, c'est des vacances, Marie-Ève.
Des vacances.
Fait que,
des vacances prescrites par le médecin.
Voilà. Fait que merci à vous deux. Merci au public qui nous a écoutés. Et dans deux semaines, et on se laisse avec Fraser et Farah.
Bonne soirée.
Bonne soirée.